La cuisine buissonnière sur RCN, Christian Saquet.
Bonjour à tous les auditeurs de RCN. Bonjour Joris, notre technicien son à RCN. Aujourd'hui, je vous propose en entrée, avec une entrée avec une salade de choux, qui sera faite aussi avec des champignons. Ensuite, pour les viandards, il y aura une bavette au poivre. Et puis, il y aura ensuite deux desserts. D'abord, des cannelés aux noix et puis une tarte au sucre. Suivra une pause musicale avec Pierre Garnier, qui chante « Ce qu'on était ». Suivra de nouveau des astuces de cuisine avec la crème au beurre et comment supprimer l'acidité de la sauce tomate. Et puis nous aurons une seconde pause musicale avec Zao de Sagazan qui chante la symphonie des éclairs. Ensuite, nous reprendrons le chemin de la cuisine pour vous donner la suite des astuces de cuisine où nous verrons comment faire de jolis fonds de tarte, des samoussas maison. Je vous rappelle que nous souhaitons étoffer notre équipe d'animateurs de la cuisine buissonnière. Il n'y a pas besoin d'être des professionnels, il suffit d'avoir de la passion pour la cuisine ou la pâtisserie, et même pas. Cela peut être une envie simplement de faire de la radio. Nous sommes une grande famille, alors n'hésitez pas, vous serez bien accueillis. C'est pourquoi j'invite les personnes qui seraient intéressées à participer à notre émission Cuisine Buissonnière de me le faire savoir sur clcv.saquet@gmail.com. Avec RCN 90.7, écoutez le son de la différence.
RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet.
Alors d'abord, la salade de choux. Pour 4 personnes, il vous faudra 400 g de choux verts et rouges, paumés, 400 g de choux-fleurs blancs et des brocolis, 100 g de champignons rosés, 4 cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc, 6 cuillerées à soupe d'huile de moutarde, une pincée de sucre en poudre, du sel de céleri et du poivre du moulin. La recette est extrêmement simple. Vous allez commencer par rincer les choux, puis lavez-les bien dans une bassine d'eau, de l'eau froide vinaigrée. Ensuite, épongez-les soigneusement, puis mettez-les dans un grand saladier. Procédez au mélange du vinaigre et du sel de céleri dans un bol, puis ajoutez l'huile de moutarde, le sucre et le poivre du moulin, goûtez et rectifiez s'il y a lieu. Je vous rappelle qu'on sale le vinaigre parce que c'est difficile de saler de l'huile. Alors, mélangez les choux avec la vinaigrette, puis laissez 30 minutes à température ambiante pour permettre aux choux de s'imprégner de la vinaigrette. Pendant ce temps, épluchez les champignons rosés avec un couteau, puis coupez-les en tranches fines et ou même en copeaux. Au bout des 30 minutes, goûtez et rectifiez l'assaisonnement s'il y a lieu. Vous pouvez servir dans un saladier ou à l'assiette. N'oubliez pas de parsemer le saladier ou la chaque assiette des tranches de champignons rosés et des copeaux de champignons. Je vous propose maintenant donc la bavette sauce au poivre. Pour 4 personnes, il vous faudra 4 bavettes de bœuf de 180 g, 2 cuillerées à soupe de poivre noir en grains, 4 échalotes, 2 centilitres de cognac, 30 g de beurre demi-sel, 15 centilitres de crème fleurette, 20 centilitres de fond de veau, une cuillerée à soupe d'huile de pépin de raisin, du sel fin. Alors, vous allez commencer par concasser votre poivre au mortier ou bien avec un rouleau à pâtisserie. Répartissez ensuite le poivre concassé sur les deux faces de chaque bavette en tapotant un tout petit peu dessus pour faire rentrer le poivre dans la viande. Épluchez puis ciselez les échalotes. Dans une grande poêle, faites chauffer l'huile avec le beurre et saisissez les bavettes d'un côté. Retournez ensuite les bavettes, ajoutez les échalotes et faites suer jusqu'une légère coloration des échalotes. Faites flamber au cognac, puis enlevez les bavettes et réservez. En cuisine, on dit débarrasser les bavettes. Ajoutez le fond de veau, laissez réduire de moitié, puis ajoutez la crème fleurette. Laissez à nouveau réduire. La sauce doit devenir nappante. Remettez les bavettes dans la poêle et enrobez-les de sauce. Vous allez maintenant dresser sur chaque assiette ces bavettes en versant le reste de la sauce sur chaque bavette. Et puis vous allez servir. C'est délicieux. Hein ? Et puis maintenant, je vous propose un premier dessert avec des cannelés aux noix. Ça change, hein, des cannelés tout bêtes, tout simples. Pour 25 cannelés, il vous faudra 1 litre de lait entier, 50 g de beurre, 500 g de sucre en poudre, 2 sachets de sucre vanillé, 240 g de farine, 4 jaunes d'œufs et 4 œufs. 4 œufs entiers, 200 g de cerneaux de noix. Vous allez commencer par faire chauffer le lait et le beurre dans une casserole en remuant constamment. Quand le lait commence à bouillir, stop, baissez le feu très doux. Et puis dans un cul de poule, mélangez les deux sucres, puis versez les œufs dessus. Et battez l'ensemble avec un batteur électrique pendant 2 minutes. Ensuite, versez le lait chaud sur la préparation tout en continuant de fouetter, puis laissez refroidir. Quand le mélange est froid, vous les mettez au réfrigérateur pendant 24 heures de repos. Le lendemain, préchauffez votre four à 220 degrés, hachez grossièrement les cerneaux de noix, puis ajoutez-les à la pâte. Répartissez la pâte de manière égale dans les moules à cannelés à 1 cm du bord de chaque moule. Et puis vous allez maintenant enfourner pour 12 minutes. Puis au bout des 12 minutes, baissez à 170 degrés. Et poursuivez la cuisson pendant 50 minutes. Après, vous allez laisser tiédir et puis vous allez démouler quand c'est un peu tiède. Et vous dégustez d'ailleurs les cannelés tièdes. Vous pouvez les manger froids aussi. Hein. Et puis pour terminer pour les recettes, je vais vous donner cette recette de tarte au sucre qui est encore... Je vous en ai déjà donné plusieurs, mais celle-ci est encore un peu plus spéciale. Quand vous allez entendre, vous allez voir. Alors pour 6 personnes, il vous faudra 250 g de farine, 35 g de levure de boulanger. On utilise de la levure de boulanger, hein, fraîche. 100 g de sucre en poudre, un œuf, 30 g de beurre, une pincée de sel et 8 cl de lait entier. Alors vous allez commencer par faire tiédir le lait à 26 degrés maximum et délayer la levure dedans. Si vous faites plus de 26 degrés, vous allez faire mourir votre levure et ça ne montera pas. Mettez 100 g de farine dans un cul de poule ou un saladier, creusez une fontaine et versez dedans la levure délayée dans le lait tiède. À la spatule, mélangez le tout afin d'obtenir une boule bien homogène. Recouvrez la boule dans le saladier avec un torchon et laissez lever pendant 30 minutes à température ambiante. Mélangez le reste de farine avec 20 g de sucre, un œuf, une pincée de sel et une cuillerée de beurre. Travaillez bien la pâte, puis étalez-la et foncez un moule à tarte beurrée. Recouvrez de nouveau ce moule et laissez-le lever pendant une heure à température ambiante. Mettez votre four en préchauffage à 140 degrés. Garnissez toute la surface de petits morceaux de beurre, puis saupoudrez 80 g de sucre. Enfournez pour 20 à 30 minutes à 140 degrés. Attention à bien surveiller la cuisson, il ne faut pas que la tarte soit trop cuite. Alors nous allons maintenant faire une petite pause musicale, nous allons écouter Pierre Garnier qui nous chante « Ceux qu'on était ».
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde peut-être pour la dernière fois. Et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné.
Midi, midi 30, la cuisine buissonnière sur RCN.
Donc maintenant, nous allons faire la suite des astuces de cuisine. Je vais commencer par la crème au beurre. Vous avez fait une crème au beurre et elle n'est pas appétissante. Voici mes astuces pour la réussir. Alors, c'est l'une des recettes les plus emblématiques de la gastronomie française. Bien connue pour garnir les traditionnelles bûches de Noël, elle est également utilisée pour préparer un opéra ou un gâteau mocha. Comme son nom l'indique, cette crème est préparée avec beaucoup de beurre et se caractérise par sa gourmandise et sa générosité. Alors, faut-il utiliser du beurre pommade ? Comment bien cuire la crème ? Comment rattraper une crème trop liquide ou qui a tranché ? Suivez mes astuces pour ne plus jamais rater votre crème au beurre. Il existe plusieurs méthodes. La plus classique et la plus répandue reste la méthode dite au sucre cuit. On commence par faire mousser les œufs, généralement uniquement les jaunes, dans la cuve d'un robot pâtissier avant d'ajouter petit à petit le sirop qui devra être à 118-120 degrés. Et fouetter à vitesse maximum jusqu'au refroidissement pour obtenir une texture ruban. Ce sabayon doit doubler de volume, être dense, épais et avoir un aspect crémeux. On incorpore alors le beurre pommade sans cesser de fouetter jusqu'à ce que la crème soit lisse et homogène. Alors il y a une autre méthode qui est couramment employée, est celle de la crème au beurre à partir d'une crème anglaise. Une fois la crème anglaise passée au chinois puis refroidie, elle doit atteindre environ 40 degrés C. Ça c'est sa température. On incorpore alors le beurre mou coupé en dés en montant la crème au batteur. Alors astuce numéro 1, utiliser du beurre à bonne température. L'un des secrets de la réussite réside dans l'utilisation d'un beurre à température ambiante. Trop froid, le beurre risque de rétracter à la préparation. La solution, sortez votre beurre du réfrigérateur au moins une heure avant de vous lancer dans la recette. Un beurre mou, beurre pommade, est gage de réussite. Attention, il ne doit surtout pas être fondu. Le beurre pommade est primordial pour que la crème au beurre reste souple. La solution, faites chauffer votre crème au beurre sur feu doux, au bain-marie et montez-la au batteur. Il y a une deuxième astuce, c'est bien toujours même, la même chose, c'est des ingrédients quand même à température identique. Bien que cela puisse sembler anodin, la température des ingrédients est cruciale. Mais la température des ingrédients a toute son importance. Le sabayon, le mélange de sirop de sucre et d'œufs, doit être redescendu à la température de la pièce avant d'y ajouter le beurre pour que le mélange se fasse harmonieusement et pour parvenir à la bonne consistance et à la bonne texture de la crème. Seul, le sirop doit être versé bouillant sur les jaunes d'œufs, puis bien fouetté jusqu'à refroidissement complet de la préparation. Cette étape de refroidissement est indispensable avant l'incorporation du beurre pour une consistance et une tenue parfaite. Alors, comment rattraper une crème au beurre ratée ? Si votre crème au beurre présente des grumeaux, passez-la rapidement au mixeur jusqu'à ce que sa texture redevienne légère et homogène. Votre crème au beurre est trop liquide, placez-la au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse, puis ajoutez progressivement un peu de beurre mou tout en fouettant jusqu'à ce que la crème épaississe.
RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet.
Alors maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure d'acidité de la sauce tomate. Tout le monde le sait. Hein. La sauce tomate, la tomate est acide. Hein. Donc la sauce tomate, elle est toujours meilleure lorsqu'elle est faite maison. En revanche, il y a un détail auquel il faut faire attention lorsqu'on la fait soi-même, c'est l'acidité. Pour la corriger, on connaît tous cette astuce de grand-mère qui consiste à verser un peu de sucre. Mais est-ce que cela fonctionne réellement ? Je vous dévoile ma technique. Des lasagnes concoctées avec de la sauce tomate faite maison auront toujours meilleur goût. Afin que les saveurs se révèlent, cette préparation a besoin de mijoter pendant de longues minutes, voire des heures. C'est le secret. Pour réussir cette spécialité italienne, il n'y a rien de bien compliqué à réussir cette recette, mais il y a un détail qu'il ne faut pas négliger, c'est justement l'acidité. Alors les tomates sont connues pour être des fruits acides, et cela se ressent davantage à la cuisson. Ainsi, le premier réflexe que l'on a, c'est d'ajouter un petit carré de sucre dans la casserole. C'est une astuce que l'on tient de nos aïeuls, ou bien que l'on a repéré quelque part sur Internet, ou bien dans un livre de cuisine. Pour autant, est-ce que ce geste est vraiment efficace? Bah certes, notre sauce aura un petit goût sucré, plaisant pour certains, mais déroutant pour d'autres. Mais l'acidité, elle sera toujours, elle est toujours présente. Hein. Elle sera un petit peu atténuée, mais bon, vous avez quand même augmenté le côté sucré. C'est donc un bon réflexe à bannir. Il y a une technique qui fonctionne à tous les coups. Alors, comment éviter que la sauce tomate soit acide? Vous savez, une sauce tomate acide, ça peut gâcher complètement tout un plat. Par exemple, même s'ils sont faits avec amour, vos spaghettis aux boulettes de viande seront moins délicieux si l'équilibre des saveurs n'est pas au point. Afin de contrebalancer l'acidité des tomates, chacun a son astuce. Donc, certains ajoutent une pincée de bicarbonate de soude, mais la plus connue reste toujours la technique du carré de sucre. Pourtant, cette astuce de grand-mère est une fausse bonne idée. En fait, le sucre ne retire pas l'acidité, il a pour effet de rendre une sauce plus sucrée, mais c'est tout. Mais alors, comment éviter que la sauce tomate soit acide? Cela va vous étonner. Et la seule chose dont vous avez besoin pour retirer l'acidité de votre sauce tomate, c'est une carotte. Quand vous préparez votre sauce tomate, déposez une carotte crue dans la casserole. Elle va absorber l'acidité. Laissez la carotte mijoter dans votre sauce et au moment de servir, retirez-la. C'est aussi simple que cela. Voilà une technique insolite, mais qui mérite d'être testée. D'ailleurs, si vous faites une bolognaise faite maison, nul besoin de réaliser cette opération, car la carotte fait partie d'office de la liste des ingrédients. Vous pouvez aussi avoir besoin d'épaissir une sauce tomate maison. Un souci pour les apprentis cuisiniers, c'est un souci que les apprentis cuisiniers rencontrent tout souvent lorsqu'ils préparent de la sauce tomate faite maison pour la première fois. C'est la consistance. Parfois, celle-ci est trop liquide, sans que l'on comprenne pourquoi. Alors, si vous êtes au bon moulier d'une recette de pâtes et que vous vous rendez compte que votre sauce n'est pas aussi onctueuse que vous le souhaiteriez, pas de panique. Il suffit d'incorporer une cuillerée à soupe de farine ou de fécule de maïs diluée dans de l'eau froide à votre préparation. Mélangez quelques instants à feu doux et vous verrez, la texture va changer presque instantanément. Eh bien, chers amis, maintenant je vais vous proposer une seconde de pause musicale avec ces Zao de Sagazan qui nous chantent la symphonie des éclairs.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. qui pourrait l'aimer franchement. Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Midi, midi 30, la cuisine buissonnière sur RCN. Christian Saquet.
Alors, comment faire de jolis fonds de tarte ou de tartelettes? Eh bien, en réalisant par exemple une pâte sucrée. Vous allez commencer par déposer du très bon beurre assez froid dans un cul de poule, puis ajouter le sucre glace. Malaxez avec les doigts en émiettant bien le beurre. Ajoutez ensuite la poudre d'amande et mélangez à nouveau avec les doigts. Une fois que le beurre est légèrement ramolli, il est ramolli parce qu'on a la main chaude, hein. Versez la farine dans le cul de poule et mélangez encore une fois jusqu'à obtenir une texture bien friable et sableuse. Incorporez l'œuf et le sel et malaxez la préparation jusqu'à former une boule. Mettez-la ensuite au réfrigérateur pendant environ 3 heures. Au bout des 3 heures de repos, vous allez saupoudrer votre plan de travail de farine. Ensuite, étalez la pâte délicatement. Prévoyez un cercle d'environ 20 cm de diamètre pour une tarte de 6 personnes. Posez le cercle sur la pâte, à l'aide d'un petit couteau, tracez le contour de la pâte sucrée à environ 2 cm du bord. Rentrez bien la pâte dans le moule, pliez et rabattez sur le dessus. Découpez ensuite le surplus à l'aide d'un petit couteau, placez votre pâte au frais pendant une heure. Enfournez votre pâte sucrée 25 minutes à 155 degrés C. Il faut qu'elle soit bien dorée et que la coloration soit bien homogène. Et pour avoir une pâte lisse, râpez légèrement le bord de votre pâte sucrée à l'aide d'une râpe type microplane. Alors, quelle est la différence entre une tarte et une tartelette? Eh bien, la différence entre une tarte et une tartelette est simple. La tarte est faite pour plusieurs convives, tandis que la tartelette sera dégustée par une seule personne. Quant à la pâte, il y en aura plus dans une tartelette que dans une part de tarte. Comment faire un moule à tartelette? Si vous n'avez pas de moule à tartelette à la maison, vous pouvez en créer un. Si vous n'obteniez pas la forme traditionnelle du moule à tartelette, cela fonctionnerait néanmoins. Pliez du papier cuisson en forme de carré ou de rectangle, en insistant sur les bords pour que le moule tienne bien et puisse contenir votre préparation. Versez-la ensuite avant de l'enfourner. Si vous avez des petits cercles, vous pouvez les utiliser pour confectionner aussi des petites tartelettes. Comment conserver les fonds de tarte? Eh bien, une fois votre pâte confectionnée, vous pouvez la garder bien emballée dans un film alimentaire pendant 3 jours au réfrigérateur. Il est aussi possible de la congeler. Si elle est crue, gardez-la 2 mois après l'avoir étalée en forme de disque. Là encore, gardez-la dans un film plastique. Il faudra la faire décongeler au réfrigérateur avant de pouvoir l'utiliser. Si vous la congelez cuite, vous pouvez la garder jusqu'à 3 mois.
RCN. La cuisine buissonnière, Christian Saquet.
Alors je vais vous proposer maintenant de faire des samoussas maison. Donc ça veut dire comment plier les feuilles de briques sans les casser. Et c'est un astuce imparable. Croustillant et délicieux, les samoussas à maison régalent à coup sûr toute la famille. Si préparer la farce est facile, plier les feuilles de briques sans les casser n'est pas toujours évident. Il existe pourtant une astuce imparable à connaître. De l'apéritif au dessert, les samoussas à la côte. Constitués de farce et de feuilles de briques, ces préparations croustillantes sont très faciles à réaliser à la maison. Seul le pliage des feuilles de briques peut s'avérer complexe. Pourtant, il existe une astuce imparable pour réussir à la perfection votre pliage. Si vous n'osez pas confectionner des samoussas par peur de ne pas réussir à plier les feuilles de briques sans les casser, je vous donne tous les conseils nécessaires pour y parvenir. Alors, originaire du sud de la Méditerranée, Maroc, Algérie, Tunisie, les feuilles de briques se présentent sous la forme de fines feuilles rondes, séparées les unes des autres par un papier cuisson. Pour qu'elles collent correctement après avoir déposé votre farce au milieu de la feuille, vous pouvez diluer une cuillère à soupe de farine dans un peu d'eau. Il ne vous restera plus qu'à badigeonner les feuilles avec ce mélange à l'aide du pinceau. Vous serez alors sûr que vos feuilles de briques colleront bien entre elles. Vous pouvez également utiliser du beurre fondu, de l'huile d'olive ou du blanc d'œuf comme colle pour vos feuilles de briques. Alors, que mettre dans les samoussas? Eh bien, dans vos samoussas, originaires d'Inde, vous pouvez vous faire plaisir. Des recettes traditionnelles avec des mélanges de viande et d'épices, pensez à la volaille ou du bœuf assaisonné de curry ou de piment. Vous pouvez vous faire plaisir avec de la viande hachée, des crevettes, du crabe, des légumes rôtis ou même du fromage. Côté sucré, réinventer des crêpes en samoussa délicieux ou réaliser une compote de fruits de saison et d'épices avant de les enfermer dans vos feuilles de briques pour un dessert gourmand. N'oubliez pas, avec les samoussas, l'essentiel, c'est de vous faire plaisir avec une farce que vous aimez. Alors, comment plier les feuilles de briques sans les casser? Les feuilles de briques peuvent se casser assez facilement. Pour y remédier, voici quelques conseils. Préparez en amont votre farce avant de sortir les feuilles de briques. Récupérez-les dans le réfrigérateur qu'au dernier moment. Ainsi, les feuilles ne vont pas sécher au contact de l'air. Ensuite, pensez à les humidifier, mouiller avec un torchon propre, déposez-le sur le plan de travail et étalez vos feuilles de briques dessus. Appuyez délicatement dessus pour que les feuilles s'humidifient. Cette opération rendra vos feuilles de briques plus souples. Maintenant, comment conserver des samoussas faites maison? Une fois que vous aurez servi vos samoussas maison, il est possible qu'il vous en reste. Pour les conserver et les déguster au plus tard, déposez-les dans une boîte hermétique au réfrigérateur et faites-les réchauffer au four, à la poêle ou à la friteuse avant de les manger, afin qu'ils restent croustillants. Vous pourrez les garder entre 3 et 4 jours. Autre possibilité de conservation, la congélation. Déposez vos samoussas sur une plaque recouverte de papier cuisson sans qu'ils ne se touchent et mettez-les au réfrigérateur. Une fois qu'ils sont congelés, mettez-les dans une boîte de conservation hermétique et laissez-les au congélateur. Vous pouvez les conserver ainsi 6 mois. Pour les déguster, passez-les au four, à la poêle ou à la friteuse, à peine sortis du congélateur.
RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet.
Eh bien, chers amis, notre émission va bientôt se terminer. Pour aujourd'hui, vous pouvez la réécouter à tout moment en allant sur le podcast de RCN, c'est www.rcn-radio.org. Vous pouvez y faire des commentaires, mais vous pouvez aussi découvrir sur le podcast de RCN d'autres émissions aussi intéressantes les unes que les autres, que ce soit de la musique, de la culture, de la citoyenneté, de l'information locale et autres. Je vous rappelle que je cherche des personnes pour participer à Cuisine Buissonnière. Quelqu'un qui aime la cuisine ou la pâtisserie, il suffit d'envoyer un mail à clcv.saquet@gmail.com, le tout en minuscule, pour m'informer de votre désir de participer avec vos coordonnées. Nous sommes une grande famille, il n'est pas nécessaire de faire de la radio, d'avoir une expérience particulière. C'est un lieu d'échange et si vous avez des choses à dire, profitez-en, nous sommes à votre écoute. Vous pouvez aussi me demander pour de prochaines émissions, à cette même adresse, des recettes que vous souhaiteriez que je traite. Merci à tous les fidèles auditeurs de RCN. Merci Joris pour ta participation technique. À bientôt avec vous sur RCN 90.7. Écoutez le son de la différence.